Dire moins pour suggérer plus. Cette formule, dont Georges Kléber a noté dans un article judicieusement intitulé « Tête de litote » qu'elle n'aurait pas été du goût de Nicolas Sarkozy, constitue sans doute la définition la plus fréquente de la litote dans les manuels de rhétorique et de stylistique. Je vous ai constitué une petite anthologie sous le petit A dans l'exemplier. Voilà. Cette formule qui revient souvent trouve des variations ou des gloses, on va dire, métaphoriques. Par exemple, chez Nicolas Bosé, ce tour pris à la lettre paraît affaiblir l'expression, mais on sait bien que les idées accessoires en feront sentir toute la force. Ou encore, on allège pour donner du poids, chez Rick Alens, on repère vers le bas pour remonter l'échelle, chez Joël Garde-Tamine. Ces couples métaphoriques, affaiblir, renforcer, alléger, donner du poids, descendre, remonter, permettent de saisir, métaphoriquement, un jeu entre le plus et le moins, un jeu dans l'expression du degré, qui est au cœur de la définition de la figure. Fernand Delarue, dans un article sur la litote chez les grammairiens latins, notait que, dès l'Antiquité, ce ne sont pas des caractères formels, mais les notions quantitatives du plus et du moins elles-mêmes, qui sont prises en compte pour distinguer et définir la litote. Cependant, même si la litote n'est pas définie par ces traits formels, il existe un lien privilégié, vous vous en doutez, entre la litote et la négation. Et ce lien saute aux yeux dès lors qu'on observe les exemples qui sont donnés par les rhétoriciens et les stylisticiens. Alors je me suis essayée à faire un essai de typologie, c'est dans le petit C de l'exemplier. La plupart des exemples donnés dans les manuels de stylistique, anciens et contemporains, je suis allée de 1730 à nos jours, sont en fait des doubles négations qui procèdent de l'association d'une négation syntaxique avec une négation lexicale, un mot négatif ou marqué. Par exemple, je ne vous hais pas, je ne méprise pas vos présents, Pierre n'est pas mal ou cet homme n'est pas un lâche. On trouve cependant également des exemples de litotes qui mettent en jeu une négation simple, c'est-à-dire la négation d'un positif. Par exemple, ça n'est pas malin ou je ne vous félicite pas. Certains auteurs, mais pas tous, donnent des exemples de litotes qui exploitent l'expression du faible degré. Par exemple, vous connaissez bien peu les hommes, vous êtes bien peu sage. Et certains auteurs, mais encore moins nombreux, donnent des exemples de litotes qui n'impliquent aucune marque explicite du degré. C'est à la fin du tableau. J'en donnerai uniquement un exemple. Molinier donne comme exemple de litote dans son dictionnaire de rhétorique « réchauffant ». Dans un poème de Verlaine, le vers c'est « l'amour câlin et réchauffant » et Molinier propose de voir dans le participe une litote signifiant en réalité « brûlant ». Ce qui se passe dans ce tableau, c'est que plus on descend, plus on va vers le bas et plus les exemples sont rares, voire il me semble discutables. Et j'ai eu le sentiment, en lisant des dictionnaires de rhétorique et de stylistique, que la litote était une catégorie de plus en plus productive, en expansion en fait aujourd'hui, notamment dans les études pragmatiques, si bien que on trouve dans des ouvrages récents des exemples non prototypiques, comme si la litote avait finalement absorbé d'autres figures d'atténuation plus anciennes, dont les noms ont disparu en fait dans le métalangage contemporain. En haut de la liste, en revanche, et c'est ça qui m'intéresse, on trouve des formes de litote qu'on peut qualifier de prototypiques parce que ce sont les formes qui sont les plus souvent illustrées par des exemples et depuis le plus longtemps, c'est-à-dire depuis l'Antiquité. On voit donc que le prototype de la litote, c'est la négation et c'est même la double négation. Et je pense que c'est une pensée du prototype que développe Fondanier quand il dit « cette figure peut être sans négation, cependant la négation s'y trouve le plus souvent ». Ce prototype de la litote, la double négation, est instancié par un exemple bien connu qui peut faire figure de parangon. C'est la réplique de Chimène dans le Cid, le célèbre « va, je ne te hais point ». Pour Dumarsay, quand Chimène dit à Rodrigue « va, je ne te hais point », elle lui fait entendre bien plus que ces mots-là ne signifient dans leur sens propre. Et depuis 1730, donc depuis Dumarsay, cet exemple est presque invariablement repris par les rhétoriciens et les stylisticiens. Alors ce qui est intéressant, c'est que tout le monde ne le glosse pas de la même manière. Dumarsay dit que Chimène veut dire bien plus que « je ne te hais point ». Fontanier se demande « Rodrigue doit-il être moins satisfait que si elle avait dit « va, sois sûr que je t'aime ». Alors je trouve ça intéressant parce que dans sa définition lui-même, il est contaminé en fait par une litote. Il pose une interrogation rhétorique. « Rodrigue doit-il être moins satisfait » Sous-entendu, Rodrigue devrait être aussi satisfait que si elle lui avait dit « va, sois sûr que je t'aime ». D'autres, dans des ouvrages plus récents, par exemple Maurier ou Bacri, désigne carrément cette réplique comme une déclaration, voilà, et la traduisent par « je t'aime ». Pourtant, depuis les années 1980, ce parangon de la litote est remis en question, très fortement par Georges Molinier notamment, pour qui il s'agit d'une vraisemblablement fausse litote, que l'on a de très fortes raisons macrostructurales, culturelles, de comprendre non figurément, c'est ce qu'il écrit dans « La stylistique ». Toutes les raisons qu'on allègue pour traduire « je ne te hais point » par « je t'aime » sont également renversables, écrit-il dans les éléments de stylistique française. On peut comprendre « va je ne te hais point » au sens de « va je ne te hais point », rien de plus, rien de moins. Pas de jeu dans l'expression du degré. Cette contestation de notre parangon national de la litote est, à mon avis, révélatrice de quelque chose. S'il existe un consensus global concernant la définition de la figure, étonnamment stable en fait depuis les rhétoriques antiques, tout le problème de la litote réside dans la difficulté qu'il y a à l'identifier de manière certaine, ce qui revient à dire dans la plupart des cas, dans la difficulté qu'il y a à interpréter certaines négations. Pour cette raison, beaucoup d'auteurs de manuels rappellent que la litote est une figure de pensée, une figure macro, dont l'interprétation est toujours contextuelle. Fontanier déjà dit « c'est au ton et aux circonstances du discours qu'est due particulièrement cette force et cette énergie. La forme grammaticale et le tour de phrase seul n'offriraient qu'une expression ordinaire et qu'il faudrait prendre à la lettre. » Molinier écrit encore que l'interprétation litotique est toujours contestable, ou dans le dictionnaire qu'il écrit avec Mazalera, que le récepteur n'est jamais obligé de recevoir le message comme figuré. Voilà, tout ça figure dans l'exemplier. À cause sans doute de la difficulté qu'il peut y avoir à identifier certaines négations, à les interpréter ou non comme des litotes, la tradition rhétorique a développé une espèce de psychologie, parfois légèrement misogyne, de la figure. C'est une figure qui déguise la pensée, pour Bozet, une figure artificieuse, d'après Fontanier et Molinier, une figure qui, d'après Jonathan Swift et les autres auteurs du Scribblers Club, est l'apanage des dames, des commères et des médisants. En plus d'être une figure de gauche qui refuse de travailler plus pour dire plus, la litote serait donc une figure de femme. Donc ça commence très mal. Voilà. Le titre du colloque nous invitait à examiner la négation à l'œuvre dans les textes. Je me propose aujourd'hui d'examiner l'expression « ne pas haïr » dans des textes du XVIIe siècle, afin de voir à quelles conditions et dans quel contexte cette double négation peut concurrencer ou non un verbe positif comme « aimer ». Alors une précision terminologique sur laquelle on me reprendra peut-être. Je vais surtout opposer dans ma communication le négatif au positif et pas la négation à l'affirmation, parce que, comme j'essaierai de le montrer, les négations qui m'intéressent agissent plus au niveau du lexique qu'au niveau de la proposition ou de l'énoncé. Voilà. Vous me direz si vous êtes d'accord ou non. Une fois n'est pas coutume, je me propose de laisser Chimène de côté et d'examiner l'expression « ne pas haïr » dans un autre corpus littéraire classique, celui des romans et des nouvelles historiques et galantes. Deux raisons à cela. D'une part, les doubles négations en général et l'expression « ne pas haïr » en particulier y sont très fréquentes. D'autre part, ces expressions sont souvent engagées dans des jeux stylistiques de co-occurrence avec leurs équivalents positifs, ce qui leur confère une indéniable saillance. Dans une première partie, je commencerai par évoquer la polysémie de l'expression « ne pas haïr » dans des ouvrages non exclusivement littéraires, pour proposer deux hypothèses. D'abord, que la fiction littéraire est au XVIIe siècle le lieu d'une lexicalisation importante de la figure qui tend à figer « ne pas haïr » en haut de l'échelle argumentative aux côtés du verbe « aimer ». Et en troisième point, que les auteurs de nouvelles historiques et galantes, en faisant cohabiter « ne pas haïr » et « aimer » dans des contextes qui, on le verra, sont plus ou moins étroits, cherchent à problématiser la figure en l'exhibant en tant que contrainte langagière et en représentant éventuellement dans la diégèse la possibilité qu'il y a s'y soustraire. Voilà. Donc, pour commencer, quelques arrêts sur l'échelle argumentative qui mène de l'absence de haine à l'amour. Je pense qu'il faut d'abord, avant de s'interroger sur ce que peut signifier « ne pas haïr », rappeler ce que signifie le verbe « haïr » lui-même au XVIIe siècle. Il a d'abord son sens premier et le même que en français contemporain. Furtière enregistre que « haïr » signifie « avoir de la haine contre quelqu'un ». L'Académie française, que « haïr », c'est « vouloir mal ». Très logiquement, la négation « ne pas haïr », on est dans l'exemple 4 de l'exemplier. Très logiquement, donc page 3, très logiquement, la négation « ne pas haïr » doit vouloir signifier, littéralement, dans son sens premier, ne pas avoir de haine, ne pas vouloir mal à quelqu'un. Par exemple, dans Britannicus, lorsque Burrus tente de convaincre Néron de pardonner à son frère, de se réconcilier avec son frère, Ne perdez point de temps, nommez-moi les perfides qui vous osent donner ces conseils parricides. Appelez votre frère, oubliez dans ses bras. Ah, que demandez-vous? Non, il ne vous hait pas. Donc dans ce passage, l'exclamation de Néron, ou l'interrogation « que demandez-vous » doit être comprise comme un mouvement d'horreur, de refus à l'idée de se réconcilier avec son frère. Il y a un énoncé non articulé ici qui est de l'ordre de « non parce qu'il me hait, mon frère me hait », ce à quoi s'oppose, ce que réfute Burrus, ce que marque donc le mot-phrase « non ». Voilà, « non, il ne vous hait pas », c'est la réfutation polémique et polyphonique de l'énoncé inarticulé « mon frère me hait ». Donc ici, il faut interpréter « ne pas haïr » de manière tout à fait littérale, comme « il n'a pas de haine pour vous, il est faux de dire qu'il a de la haine pour vous ». Mais dans un second temps, et ce sens a disparu, il me semble, du français contemporain, le verbe « haïr » a un sens plus faible, furtière en registre, par exemple, « avoir des antipathies ou des aversions quand quelque chose nous nuit ou nous incommode ». L'Académie française nous dit également « avoir aversion »,« avoir répugnance ». Ce second sens de haïr qui s'est affaibli, qui s'est perdu aujourd'hui, explique à mon avis que le verbe et que sa négation soient plus fréquents dans les corpus classiques que dans le corpus contemporain. J'ai relevé dans Frontex qu'il y avait à peu près 3 fois plus d'occurrences de haïr et de ne pas haïr dans le corpus classique que dans le corpus moderne. Avant de se demander donc dans quel contexte ne pas haïr peut être une litote, je pense qu'il faut rappeler que haïr lui-même est une hyperbole en fait, lexicalisée. Et en ce sens, on peut trouver des attestations de ne pas haïr dans le sens de ne pas mépriser, ne pas être incommodé par. Je pense en avoir trouvé un exemple dans une lettre de Madame de Sévigné, qui raconte à sa fille une fête donnée à l'hôtel de Condé. Des jets d'eau, des cabinets, des allées en terrasse, six hautbois dans un coin, six violons dans un autre, des flûtes de douce un peu plus près, un souper enchanté, une basse de viol admirable, une lune qui fut témoin de tout. Si vous ne haïssiez point à vous divertir, vous regretteriez de n'avoir point été avec nous. La négation ici, il me semble, est liée à l'expression de l'hypothèse. Sévigné imagine un monde possible dans lequel sa fille ne serait pas si austère qu'elle l'est en réalité, et la construction, la projection de ce monde possible procède de l'inversion de la valeur de vérité d'une proposition qui est valable dans le réel. Dans le réel, Madame de Grignan est à se divertir, mais dans un monde possible contrefactuel, où elle ne haïrait pas à se divertir, où elle ne mépriserait pas les divertissements, elle aurait regretté d'avoir loupé cette super fête. Haïr prend ici donc un sens hyperbolique. Madame de Grignan ne hait pas les divertissements comme Néron pense que Britannicus le hait, mais davantage, pour reprendre des exemples qui sont dans les dictionnaires ancien, comme les chats haïssent les souris ou comme la vigne et le chou, c'est-à-dire qu'elle ne les aime pas trop. Voilà. C'est sans doute de la négation de cette hyperbole que procède en fait la litote ne pas haïr qui est fréquente dans les textes du XVIIe siècle. Un exemple dans le page disgracié. Le héros et ses acolytes sont surpris par le terrible nain qui fait régner la terreur dans la maison, en train d'avoir un dîner en dehors des temps de repas et en fait de piller les cuisines. Il tente d'acheter son silence en le conviant à leur repas clandestin. Je fus députée pour aller vers lui afin de lui demander s'il aurait agréable de manger d'une aile de perdrix et d'une carcasse de poulet qui nous était restée entière, avec 3 doigts de genêtin que nous savions qu'il ne haïssait pas. Mais il me répondit qu'il ne déjeunait pas si matin. Un autre exemple, encore chez notre marquise nationale, qui raconte à sa fille dans une lettre qu'elle s'endort tous les soirs en lisant la Calprenède. « Pour les sentiments, j'avoue qu'ils me plaisent aussi et qu'ils sont d'une perfection qui remplit mon idée sur les belles âmes. Vous savez aussi que je ne hais pas les grands coups d'épée, tellement que voilà qui va bien, pourvu qu'on en garde le secret. » Dans ces 2 passages, la négation n'est justifiée ni par un contexte de réfutation, comme dans Britannicus, ni par l'expression de l'hypothèse, comme dans l'exemple de Sévigné que je citais précédemment. Et à mon avis, c'est là que commence la litote. La négation n'est pas justifiée en contexte et on doit l'interpréter descriptivement. Tout le problème, évidemment, c'est celui du sens en termes de degré à attribuer à l'expression. Je vais pas tout lire, mais dans l'exemple lié, en fait, je vais paraphraser très rapidement les occurrences 8 à 11. Les linguistes qui se sont penchés sur ces cas de double négation ont mis en avant le fait que des valeurs très différentes pouvaient être attachées à non-non. Stern, par exemple, note qu'en anglais, not bad peut signifier à peu près n'importe quoi entre indifferent et excellent. Or, note que si quelque chose est not unlikely, donc pas improbable, cette chose peut être likely, probable, mais aussi peut tomber dans ce qu'elle appelle une zone d'indifférence entre likely et unlikely. Ducrot pointe que, d'un côté, Palais et pas méchant renvoient souvent à un en deçà de beau et gentil, c'est moins bien d'être palais que d'être beau, mais que dans d'autres contextes, ne pas haïr, par exemple, peut signifier aimer. Il prend cet exemple. Et Claude Muller également nous dit que pas maigre, la double négation pas maigre, à cause de la complexité sémantique inhérente à la double négation, ne sera jamais un strict équivalent du positif gros, mais peut signifier soit moyennement gros, soit extrêmement gros. Voilà. Donc, en réalité, la seule chose qui soit certaine dans la double négation, c'est l'orientation argumentative vers le positif. Mais il est a priori impossible de prédire l'arrêt du sens sur l'échelle argumentative. Comme le disait Agnès Fonvielle dans l'introduction du colloque, la négation, c'est l'indétermination du sens, c'est la transformation du binaire en scalaire, et c'est donc au lecteur d'arrêter le sens quelque part sur l'échelle en fonction du contexte. À mon avis, c'est cette indétermination sémantique qui fait tout l'intérêt de l'expression. Si on reprend nos deux exemples, le gentin qu'il ne haïssait pas ou les grands coups d'épée, on se rend compte que les expressions négatives permettent de dénoter un goût pour des choses qui sont peu valorisantes. L'alcool, les grandes scènes d'action romanesques. Voilà, c'est un petit peu la même chose. Chez Sévigné, il y a même un jeu avec le positif, puisqu'elle dit par ailleurs que le caractère des romans lui plaît, que les grands sentiments lui plaisent. Donc elle admet sans peine, de manière positive, son goût pour les grands sentiments, pour les valeurs morales, mais c'est au moment d'évoquer son goût pour ce qui est purement divertissant dans les romans que ça coince et qu'elle passe par la litote. Brown et Levinson ont mis en avant le fait que la litote, en fait, relevait de la politesse négative. On litotise les comportements impolis. En fait, on litotise ce qui n'est pas valorisant dans la conversation, dans le dialogue. Et en faisant des recherches sur contexte, j'ai pu constater que ça fonctionnait assez bien pour décrire l'emploi de ne pas haïr dans la langue classique. Donc ici, on a ne pas haïr l'alcool, ne pas haïr le divertissement romanesque. J'ai également rencontré chez Balzac ne pas haïr la volupté, ne pas haïr le plaisir de la bonne chair, ou encore dans Clélie de Scudéry, ne pas haïr à se montrer, ne pas haïr à mentir. Donc il y a vraiment une corrélation entre la litote qui affecte le prédicat et les connotations négatives qui sont attachées au COD. Donc un des problèmes qu'on a dans les définitions traditionnelles de la litote, je pense, c'est l'équivalence trop souvent établie entre litote et très haut degré. Ne pas haïr égale aimer, pas mal égale très bien. En réalité, la litote ne nous dit jamais que quelque chose est très bien et au sommet de l'échelle. Tout ce qu'elle fait, c'est orienter l'interprétation de l'énoncé vers le haut degré. Je pense que dans ces exemples, on ne peut pas traduire les litotes par du très haut degré, on ne peut pas affirmer que le nain adore l'alcool ni que Madame de Sévigné adore le divertissement romanesque. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils éprouvent un certain goût qui reste indéterminé en degré, mais qui va vers le plus pour des choses qui sont potentiellement répréhensibles. On conçoit, de fait, que l'expression puisse être employée pour faire référence à des relations galantes, sans dire explicitement jusqu'où va la galanterie. J'en ai trouvé deux exemples qui m'ont semblé amusants chez Scarron et chez Sévigné. Dans le roman comique, le destin raconte sa rencontre avec la belle Léonore et le moment où il s'est fait expliquer les origines mystérieuses de la jeune fille par son hôte, un aubergiste. Il, l'aubergiste, me dit qu'elle, la mère de Léonore, s'appelait Mademoiselle de la Boissière, qu'elle était venue à Rome avec la femme de l'ambassadeur de France, qu'un homme de condition, proche parent de l'ambassadeur, était devenu amoureux d'elle, qu'elle ne l'avait pas haï, et que d'un mariage clandestin, il en avait eu cette belle Léonore. Plus direct encore chez Madame de Sévigné, elle raconte une anecdote complètement improbable sur un illustre inconnu nommé Brisacier, qui, pour des raisons que personne ne comprend, se voit offrir de grandes dignités par l'ambassadeur du roi de Pologne en France. Il se fait offrir une terre, etc. Alors tout le monde s'interroge sur cette distinction inattendue, et on entend venir de la cour de Pologne l'idée que Brisacier est un parent du roi de Pologne. Le roi de Pologne ajoute que Brisacier est son parent, et que tant autrefois en France il avait voulu épouser sa sœur. Il a envoyé une clé d'or à sa mère comme dame d'honneur de la reine. La médisance, pour se divertir, disait que le roi de Pologne, pour se divertir aussi, avait eu quelques légères dispositions à ne pas haïr la mère et que ce petit garçon était son fils. Mais cela n'est point. Voilà. Donc, merci à Sévigné, notre commère national. Et là, on donne un peu raison à Swift. Voilà, peut-être que la litote est vraiment une figure du commérage. Merci de rétablir la vérité in extremis, mais quand même, elle suggère beaucoup. Dans ces deux exemples, La personne qui rapporte l'anecdote croustillante affecte une espèce de réserve grâce à l'emploi de l'expression « ne pas haïr ». Mais évidemment, cette apparente retenue n'est là que pour contraster avec le dénouement de l'anecdote, puisque les conséquences du procès, mariage, enfant, imposent l'interprétation en litote. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord pour dire que dans le réel, il faut un peu plus que ne pas haïr quelqu'un pour faire des enfants avec cette personne. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je ne peux pas m'empêcher de me demander si la future Madame de Grignan enfant a demandé à sa mère « Maman, comment on fait les enfants ?» et si Madame de Sévigné lui a répondu « Il faut un homme et une femme qui aient quelques légères dispositions à ne pas se haïr. » Voilà. Auquel cas, ça pose un problème pédagogique, je pense. Tout ça pour dire que la forme « ne pas haïr », on le voit, est plus productive dans la langue classique qu'elle ne l'est aujourd'hui, notamment parce que le verbe « haïr » est lui-même susceptible d'emplois plus variés, par hyperbole. La négation du négatif permet de créer un parcours qui est orienté vers le haut degré sans prescrire l'arrêt du sens sur ce parcours, ce qui permet, donc on valide temporairement ce que disent les rhétoriciens et les stylisticiens, que c'est au lecteur de déterminer, à partir du contexte, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ces différentes occurrences, si « ne pas haïr » prend le sens de « ne pas avoir de haine », de « ne pas mépriser, tolérer », de « apprécier, bien aimer » ou de « être amoureux, aimer, voire coucher avec quelqu'un ». La question qui va m'intéresser maintenant, c'est ce que devient cette expression polysémique dans un corpus littéraire, celui des romans et des nouvelles historiques et galantes de la fin du XVIIe siècle. Ce que je vais défendre comme hypothèse, c'est que dans ce corpus littéraire, on voit à l'œuvre en fait un important processus de lexicalisation de la figure, enregistré dans son sens le plus fort, ne pas haïr égale aimer. Ça revient à dire deux choses. D'abord qu'a lieu un phénomène de restriction sémantique, de restriction au niveau du sens, et ensuite, dans certains cas, une possibilité d'extension au niveau des usages. La restriction sémantique, en fait, on la voit en parcourant les exemples d'occurrences de ne pas haïr dans les romans et les nouvelles. Alors, j'ai mis que quatre exemples pour étaler un petit peu dans le temps, mais ces exemples sont vraiment représentatifs de ce qu'on trouve dans la fiction. Par exemple, dans L'Astrée, on parle d'une bergère qui avait quelque inclination à ne point haïr Sylvandre. Dans Clélie, Aronce désespère de ne pas pouvoir épouser Clélie. Quand même, il serait possible que cette merveilleuse fille ne le ait point. Dans Zaïde de Madame de Lafayette, Consalve croit voir que Zaïde ne le ait pas. Dans une nouvelle de Catherine Bernard, Le Comte d'Amboise, un marquis reprend espérance. Il voyait qu'il n'était pas haï, donc de celle qu'il aime. Dans toutes ces occurrences, la nature des actants de part et d'autre du verbe oriente l'interprétation de ne pas haïr. Bien sûr, au cas par cas, on peut s'interroger sur le degré du sentiment auquel il est référence. Mais il n'en reste pas moins que dans tous les cas, il s'agit d'évoquer une relation entre un homme et une femme, une relation de galanterie qui est toujours au moins possible. Donc l'expression « ne pas haïr » est employée de manière beaucoup plus restreinte dans la fiction que dans d'autres textes de la même époque. Et cette spécialisation de l'expression, il m'a semblé, s'accuse au fil de l'histoire littéraire. Dans le roman baroque, par exemple dans L'Astrée, j'ai rencontré des exemples où « ne pas haïr » pouvait avoir un sens polémique, ou pouvait dénoter une relation, par exemple, entre deux hommes qui se tolèrent sans être amis. Dans Clélie encore, j'ai mentionné des exemples du type « ne pas haïr à mentir »,« ne pas haïr à se montrer ». Mais en fait, cette diversité disparaît dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Dans les nouvelles historiques et galantes, l'expression « ne pas haïr » dénote exclusivement une relation de galanterie entre un homme et une femme. Par exemple, dans l'ensemble des œuvres de Madame de Lafayette, on rencontre 11 occurrences qui n'ont jamais d'autre sens que celui-ci. Voilà. Il me semble que ce processus de restriction sémantique autorise une extension au niveau des usages. Alors j'en commenterai deux occurrences qui m'ont semblé intéressantes. La première se trouve dans Clélie. Un homme, Marcius, est en train de raconter à Plotine ses amours malheureuses avec Lysimir. Sachez donc que j'ai sans doute été aimée de Lysimir, qui était assurément une des plus aimables personnes du monde. Et je puis vous jurer que je n'ai jamais cessé un moment de l'aimer. Il est vrai qu'après que notre affection fut liée par mille serments, je changeais ma façon d'agir avec elle, parce que la bienséance le voulait et qu'elle-même le voulait ainsi. Mais pour mon cœur, il ne changea point du tout. Cependant, pour mon malheur, Lysimir crut que Lucie ne m'avait pas haï autrefois et ne me haïssait pas encore, de sorte qu'elle vint insensiblement avoir une jalousie secrète qui la dévorait. Ce qui m'intéresse ici, c'est la co-occurrence de la négation avec l'adverbe « encore ». Théoriquement, en contexte négatif, l'adverbe « encore » indique la prolongation d'un état négatif, mais aussi la possibilité, voire l'imminence, d'un renversement et d'un passage au positif. « Elle ne me haïssait pas encore » devrait vouloir dire « Elle ne me haïssait pas pour l'instant, mais Elle pouvait me haïr, elle allait me haïr bientôt, elle me haïrait un jour. Ce n'est manifestement pas ce que dit Marcius ici. La jalousie de celle qu'il aime, Lysimir, est fondée sur la certitude que sa rivale, Lucie, l'a aimée dans le passé et qu'elle l'aime encore dans le présent. L'adverbe signifie uniquement la prolongation de l'état. Elle continue à l'aimer, ce qui normalement devrait être exprimé par « toujours pas ». Elle ne me haïssait toujours pas. Malgré la négation qui affecte le verbe, l'adverbe « encore » est donc employé comme il le serait dans un contexte affirmatif. On peut penser que c'est là l'indice d'un figement de l'expression qui fait de ne pas haïr une sorte de locution verbale, si bien que la négation, qui pourtant repose sur les marques de la négation syntaxique, devient une sorte d'élément lexical, se convertit en élément de lexique pour former un verbe composé, ne pas haïr, qui serait l'équivalent de aimer, et donc la négation syntaxique échoue à avoir une incidence dans la proposition. L'autre occurrence qui m'a semblé intéressante se trouve dans La princesse de Clèves, lors de la scène de l'aveu. Alors là, il faut que je contextualise un petit peu pour qu'on voit ce qui amène cette occurrence. La princesse est avec son mari dans un pavillon et elle lui demande de... Elle ne veut pas revenir à la cour et elle lui avoue qu'elle ne veut pas revenir à la cour pour fuir une galanterie. Elle ne sait pas que Nemours l'écoute depuis le jardin. Il est vrai que j'ai des raisons de m'éloigner de la cour et que je veux éviter les périls où se trouvent quelquefois les personnes de mon âge. Donc elle fait référence à une galanterie possible, voilà, la tentation de l'adultère. Nemours écoute complètement angoissé depuis le jardin. Il ne perdait pas une parole de cette conversation et ce que venait de dire Madame de Clèves ne lui donnait guère moins de jalousie qu'à son mari. Il était si éperdument amoureux d'elle qu'il croyait que tout le monde avait les mêmes sentiments. Il était véritable aussi qu'il avait plusieurs rivaux, mais il s'en imaginait davantage et son esprit s'égarait à chercher celui dont Madame de Clèves voulait parler. Dans la suite de la conversation, le prince de Clèves se rappelle l'anecdote du vol du portrait. Il avait fait faire un portrait de sa femme qui a disparu et il accuse donc sa femme d'avoir offert ce portrait à son amant. « Ah, madame, reprit tout d'un coup Monsieur de Clèves, je ne vous saurais croire, je me souviens de l'embarras où vous fûtes le jour que votre portrait se perdit. » Et là, la princesse admet qu'elle a vu le portrait être volé et qu'elle n'a rien dit pour ne pas faire savoir à celui qui l'aime qu'elle savait. « Il est vrai que je le vis prendre, mais je ne voulus pas faire paraître que je le voyais, de peur de m'exposer à me faire dire des choses que l'on ne m'a pas encore osé dire. Le duc de Nemours, qui écoute tout depuis le jardin, peut se reconnaître comme celui qui a volé le portrait, voilà, puisqu'il sait ce qu'il a fait, d'où le moment de « Eureka », en fait, c'est de moi qu'elle parle. Monsieur de Nemours était sorti du lieu où il avait entendu une conversation qui le touchait si sensiblement et s'était enfoncé dans la forêt. Ce qu'avait dit Madame de Clèves de son portrait lui avait redonné la vie en lui faisant connaître que c'était lui qu'elle ne haïssait pas. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'emploi de la négation dans la partie présuppositionnelle, en fait, du clivage. Sauf à considérer que la princesse de Clèves a de la haine pour la terre entière, moins une personne, je pense qu'il est complètement impossible d'interpréter ici « ne pas haïr » littéralement. Le contexte du clivage, en fait, disqualifie complètement le sens littéral de l'expression. Ce qui se passe ici, c'est que « ne pas haïr » est employé comme un outil de description suffisamment efficace pour permettre de focaliser un référent et de le distinguer de tous les autres. On a évoqué au cours du colloque la question de la négation descriptive. Y a-t-il des négations qui sont complètement descriptives? Je pense que là, quand on est au bout de la litote, oui, la valeur est uniquement et complètement descriptive, puisque le prédicat manifeste une telle adéquation descriptive au référent, pour reprendre l'expression de Claude Muller, qu'il peut apparaître comme sa propriété exclusive. C'est le seul qu'elle ne hait pas. Ces exemples, « elle ne me haïssait pas encore, c'était lui qu'elle ne haïssait pas », sont des apax que j'ai repérés notamment en utilisant la base Frontexte. Mais ils sont, à mon avis, à la fois les symptômes et les instruments d'un processus de lexicalisation de la figure qui est en cours dans la fiction. Donc, même si l'expression « ne pas haïr » peut, en langue, voilà, théoriquement, recevoir autant de significations qu'il y a d'étapes sur l'échelle argumentative qui va de l'absence de haine à l'amour, dans la fiction narrative, et particulièrement dans la seconde moitié du XVIIe siècle, cette expression se trouve installée dans un rapport d'équivalence à la fois syntaxique et fonctionnel avec le verbe « aimer », au point de pouvoir récupérer la propriété syntaxique de fonctionner avec l'adverbe « encore », et au point de pouvoir apparaître dans la propriété, dans la partie présuppositionnelle du clivage, ce qui, voilà, j'ai pas trouvé d'autres occurrences de formules du type « c'était lui que ne pas ». Donc l'usage, on pourrait dire, littéraire et fictionnel de la double négation tend à intercepter sa signification sur l'échelle argumentative. ce qui, en fait, me fait nuancer les définitions habituelles de la litote, selon lesquelles elles sont toujours dépendantes du contexte et selon lesquelles le lecteur aurait toujours à calculer le sens de la litote. Je crois qu'ici, le contexte vient surtout, comme dans n'importe quel cas de polysémie, valider un des sens de l'expression « ne pas haïr » qui est devenu disponible en langue. Et je pense que cette lexicalisation, cette routinisation en fait, de la litote, explique que Dumarsais, en 1730, soit absolument certain de lire dans le vers de Chimène « Va, je ne te hais point », une déclaration d'amour. Voilà. En 1730, quand il écrit son traité des tropes, l'expression est entrée dans la langue, mais notamment par l'intermédiaire de la fiction narrative. Pour autant, l'expression « ne pas haïr » ne devient jamais un vrai concurrent du verbe « aimer », au sens où elle ne le fait pas disparaître des corpus littéraires. Au contraire, ces deux expressions, « aimer » et « ne pas haïr », apparaissent souvent de manière co-occurrente dans les corpus, dans les nouvelles historiques et galantes, et c'est ce sur quoi je m'intéresserai pour finir. Je distinguerai deux cas de figure, des passages du type « il aime, elle ne hait pas », dans lesquels le prédicat négatif et le prédicat positif en fait, n'ont pas le même sujet, parce qu'il s'agit d'opposer la représentation des passions féminines qui suppose la sourdine à celle des passions masculines qui se passent de figure, et des passages du type « je ne hais pas et même j'aime », dans lesquels le prédicat négatif et le prédicat positif ont le même sujet, et où le verbe « aimer » peut apparaître comme un événement en fait, dans le discours des personnages. Donc, premier cas de figure, « il aime, elle ne hait pas ». C'est ce qui m'avait amené à proposer ce sujet lors du colloque. J'avais constaté, à la lecture de mon corpus de nouvelles historiques et galantes, un véritable topos qui consiste à faire apparaître de manière co-occurrente la litote et son équivalent positif, voilà, dans des contextes d'évocation de l'amour. J'en ai mis quatre exemples dans l'exemplier, deux seulement sur le PowerPoint pour des raisons de taille de police. Par exemple, dans les nouvelles françaises de Segré, Horton dit à Lucrèce, voilà, c'est une espèce d'histoire de galanterie ratée, ils se sont aimés mais pas au même moment, « car enfin que je serais heureux si je pouvais vous aimer », donc c'est un homme qui parle, « tandis que vous avez peut-être volonté de ne me pas haïr ». Dans la conversation finale entre le duc de Nemours et la princesse de Clèves, la révolte de Nemours s'exprime de cette manière, « quoi, madame, une pensée vaine et sans fondement, c'est-à-dire la mémoire de son mari, vous empêchera de rendre heureux un homme que vous ne haïssez pas, ça c'est lui ». Quoi, j'aurais pu concevoir l'espérance de passer ma vie avec vous, ma destinée m'aurait conduit à aimer la plus estimable personne du monde, j'aurais vu en elle tout ce qui peut faire une adorable maîtresse, elle ne m'aurait pas haï, n'aurais-je envisagé une si grande félicité que pour vous y voir apporter vous-même des obstacles. Ce type de configuration est vraiment très fréquent dans mon corpus. Et ce qu'on observe évidemment, c'est la spécialisation de la litote dans l'évocation du féminin. D'une manière générale, de toute façon, la litote sert davantage à représenter l'amour féminin que masculin. Sur les 11 occurrences de ne pas haïr que je mentionnais dans les nouvelles de Madame de Lafayette, une seule a pour sujet un homme. Voilà. C'est la reine Dauphine qui dit « j'ai eu lieu de croire qu'il ne me haïssait pas » en parlant du duc de Nemours. Mais c'est la seule. Les 10 autres occurrences représentent un désir qui est féminin. Et lorsque les litotes sont engagées dans des jeux de confrontation avec leurs équivalents positifs, la répartition est absolument systématique. Au féminin, la litote, au masculin, l'expression positive. J'ai concentré mon étude sur l'expression « ne pas haïr » parce qu'elle me semblait bien témoigner de ce qui se passe, mais en fait, ce phénomène s'étend à d'autres litotes. Alors, j'en donnerai plusieurs exemples. Dans « Les désordres de l'amour », Madame de Maugiron plut à Givry et ne fut pas insensible au charme de ce seigneur. Dans « La princesse de Montpensier », lorsque le duc de Guise avoue à l'héroïne qu'il l'aime encore, la conversation laissa une sensible joie dans l'esprit du duc de Guise, la princesse n'en eut pas une petite de connaître qu'il l'aimait véritablement. Dans « La princesse de Clèves encore », lors de la scène de la lettre, qu'ils écrivent ensemble pour sauver le vidame de Chartres, M. de Nemours était bien aise de faire durer un temps qui lui était si agréable et oublier les intérêts de son ami. Madame de Clèves ne s'ennuyait pas et oubliait aussi les intérêts de son oncle. Alors, je précise que ce qui est en jeu dans le choix du prédicat positif ou négatif, ce n'est pas la personne du locuteur, mais c'est bien celle du sujet ou du contrôleur du verbe. La litote est employée dès lors qu'il s'agit de faire référence à une passion féminine, peu importe que cette référence soit effectuée dans le discours d'une femme, dans le discours d'un homme ou dans le récit lui-même. Donc, n'en déplaise à Jonathan Swift, la litote n'est pas tellement une figure de femme, mais c'est une figure du féminin, au sens où elle n'est pas la marque d'une rhétorique féminine, mais d'une représentation du féminin. C'est le désir des femmes lui-même qui fait figure de tabou en langue. On peut s'interroger du coup sur l'effet qui est créé par ces co-occurrences. À mon avis, tout l'intérêt de ces jeux stylistiques entre le positif et la litote, c'est de redonner une saillance à la figure. D'un côté, les litotes sont extrêmement lexicalisées, enregistrées par la langue, mais confrontées à leur équivalent positif, elles reprennent en fait cette saillance que la lexicalisation pouvait leur faire perdre. Voilà. Donc, les récits de fiction permettent à la fois d'enregistrer un sens très fort pour ces expressions et en même temps de les faire apparaître comme des figures. Et de ce point de vue, je trouve le dernier exemple très intéressant. Monsieur de Nemours était bien aise de faire durer un temps qui lui était si agréable et oublier les intérêts de son ami. Madame de Clèves ne s'ennuyait pas et oubliait aussi les intérêts de son oncle. Ici, il y a un contraste manifeste entre le positif « être bien aise » et la double négation « ne pas s'ennuyer », qui normalement ne devrait pas avoir le même sens, sauf que les deux prédicats ont exactement la même conséquence et que cette similitude est mise en valeur stylistiquement, voilà, par à la fois un parallélisme de construction, par les répétitions « oublier intérêt », par la relation de co-référence « son ami, son oncle » qui vise la même personne, et par l'adverbe « aussi ». Donc, tout ce passage guide la lecture de l'expression vers le très haut degré. À mon avis, il faut comprendre que la princesse de Clèves aussi était bien aise d'être seule avec le duc de Nemours, qu'elle ressentait la même chose, puisqu'elle en oubliait aussi les intérêts de leur ami commun. Donc, de manière très appuyée, le texte met en valeur le phénomène d'équivalence sémantique qui s'est établi dans la langue de la fiction entre litote et positif. Et c'est, je pense, pour faire apparaître la dissymétrie qui affecte la représentation. Il s'agit pour les auteurs, qui sont souvent des femmes, qui sont souvent des autrices, de mettre et qui mettent souvent au centre du récit des personnages féminins, d'exhiber des contraintes qui pèsent sur la représentation du désir féminin dans les œuvres et sur son expression sans doute dans le monde. Ce qui m'amène à mon dernier point, les passages du type « je ne hais pas et même j'aime ». Donc, il s'agit du deuxième type de contexte dans lequel « ne pas haïr peut côtoyer aimer », mais en prédiquant cette fois à partir du même sujet. Dans les nouvelles françaises de Segré, par exemple. Il s'agit d'une lettre d'un personnage qui s'appelle Adélaïde dans la nouvelle Adélaïde. Adélaïde aime Carloman en secret, et un jour, la mère de Carloman trouve des lettres d'Adélaïde dans la chambre de son fils. Il s'agit de la troisième lettre. « Je crois que vous m'aimez. N'est-ce pas assez vous dire ? Non, vous murmurez encore. En voulez-vous davantage ? Je vous permets de m'aimer. Quoi ? N'êtes-vous point content ? Sans mentir, vous êtes bien difficile. Pour vous dire donc quelque chose de plus, je ne vous hais point. Mais il me semble que ce terme vous offense. Vous êtes le plus important de tous les hommes et il faut bien se défaire de vous. Eh bien, je vous aime. C'est maintenant un peu trop, et du moins de la moitié. » Si on replace ce billet dans le contexte, il faut comprendre qu'il intervient après plusieurs autres, qui représentent des étapes antérieures dans la correspondance amoureuse. Donc dans ce billet, qui est le troisième, elle fait pour la première fois l'aveu de son amour. Et tout le billet est structuré par une espèce de fiction dialogique dans laquelle elle feint de répondre aux sollicitations d'un amant qui en veut toujours plus. On constate que le texte lui-même actualise dans l'ordre différentes étapes d'une espèce d'échelle rhétorique de « je crois que vous m'aimez » à « je vous permets de m'aimer » puis de « je ne vous hais point » à « je vous aime ». Et le lexique de la quantité est ici omniprésent. Voilà. Donc le texte commande sa propre progression dans l'échelle dans le domaine du degré, assez, davantage, quelque chose de plus, un peu trop et du moins de la moitié. Au sommet de l'échelle, le verbe « aimer » est explicitement dénoncé comme « excessif ». À la fois par le personnage, qui dit « c'est maintenant un peu trop », et par les auditrices du récit, puisque la nouvelle est enchâssée dans un récit cadre, et à ce moment-là, ce qui est très rare pourtant dans les nouvelles françaises de Segré, mais à ce moment-là, il y a une manifestation en fait, des auditrices de la nouvelle. À cet endroit de la narration, il s'éleva un petit murmure entre ces dames sur le sujet de ces lettres, qu'elles semblaient louer et blâmer en même temps. Donc à la fois dans la diégèse et dans le niveau du récit cadre, l'emploi du verbe « aimer » est dénoncé, en fait, est désigné comme un excès, une licence langagière. Le dernier exemple que je commenterai se trouve dans « La princesse de Clèves », donc dans la première et dernière conversation amoureuse qui se situe à la toute fin de la nouvelle. Cette conversation également doit être envisagée comme la dernière étape d'un parcours à la fois psychologique et linguistique, qui s'est déroulé tout au long du roman et au cours duquel l'héroïne a appris à identifier et à nommer son désir. Le discours de l'héroïne commence par une sorte d'exorde à caractère un peu méta. Puisque vous voulez que je vous parle, je le ferai avec une sincérité que vous trouverez malaisément dans les personnes de mon sexe. Donc au début de sa prise de parole, elle annonce explicitement qu'elle va parler d'une manière qui n'est pas féminine, qui n'est pas attendue de la part d'une femme. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cette annonce coïncide avec une double négation. « Je ne vous dirai point que je n'ai pas vu l'attachement que vous avez eu pour moi. » Refusant de mentir, la princesse refuse en fait de parler à la forme négative. Succède une suite d'affirmations qui sont en miroir en fait de cette double négation. Je vous avoue donc non seulement que je l'ai vu, mais que je l'ai vu tel que vous pouvez souhaiter qu'il m'ait paru. Je vous avoue que vous m'avez inspiré des sentiments qui m'étaient inconnus, etc. Donc ici, on a des verbes de discours avoués qui viennent contrarier le « je ne vous dirai pas », tandis que « je n'ai pas vu », voilà, vient contredire « j'ai vu ». Refusant de nier, Madame de Clèves refuse de mentir, et elle effectue alors le même parcours qu'Adélaïde, admettant d'abord qu'elle a vu la passion de l'autre, « je vous avoue que je l'ai vu », puis admettant en avoir ressenti elle-même, « vous m'avez inspiré des sentiments », etc. En bout de course, ayant finalement annoncé au duc de Nemours qu'elle ne l'épouserait pas et resterait dans sa retraite, elle emploie le verbe « aimer ». Ayez cependant le plaisir de vous être fait aimer d'une personne qui n'aurait rien aimé si elle ne vous avait jamais vu. Alors bien sûr, on note le maintien d'une espèce de sourdine, puisqu'elle emploie ici l'énalage de personne, une personne qui. On peut aussi relever le déplacement de la négation. Ici, il n'y a pas de négation qui affecte le prédicat. Elle ne dit pas ne pas haïr, mais elle dit aimer. Par contre, la négation, c'est comme si elle se répercutait sur le reste. Une personne qui n'aurait rien aimé si elle ne vous avait jamais vu. Voilà. Suzanne commentait des exemples semblables hier et parlait d'hyperbole indirecte. Voilà, il me semble que tu employes cette expression. Vous êtes le seul que j'aime. L'expression, cette idée-là, est véhiculée par une espèce de projection d'univers possible, voilà, dans tous les mondes possibles. Si vous n'aviez pas été là, je n'aurais rien aimé. Voilà. Quoi qu'il en soit, voilà, malgré ces effets de sourdine, ce maintien de la négation, c'est bien ici la première occurrence du verbe aimer que l'on trouve dans un discours de l'héroïne. Elle est double, en fait, il y a un polyptote ici. Et il y a une coïncidence entre ce qui se passe dans le texte et ce qui se passe dans l'histoire. C'est la première fois dans un discours de l'héroïne qu'on trouve le verbe aimer, parce que c'est la première fois dans sa vie qu'elle s'autorise à prononcer le mot. Madame de Clèves n'était pas en état de trouver du repos. Ce lui était une chose si nouvelle d'être sortie de cette contrainte qu'elle s'était imposée, d'avoir souffert pour la première fois de sa vie qu'on lui dit qu'on était amoureux d'elle, et d'avoir dit elle-même qu'elle aimait, qu'elle ne se connaissait plus. Voilà. Et comme Adélaïde, Madame de Clèves donc, souligne ce que ce discours a d'excessif. Le mot « honte » apparaît deux fois dans le passage. Voilà. Moins de honte, ça me fait honte. Et comme Adélaïde, comme les auditrices de la nouvelle de ce gré, elle ressent une espèce de frisson de plaisir coupable. Elle s'en repentit, elle en eut de la joie. Alors, contrairement à ce qui se passait dans la nouvelle de ce gré, les expressions « ne pas haïr » et « aimer » ne sont pas actualisées ici dans un contexte étroit. Mais à mon avis, c'est l'ensemble de l'œuvre qui vient donner du relief aux occurrences finales du verbe « aimer ». L'expression « ne pas haïr » constituait jusque-là l'unique mode d'expression et de représentation du désir féminin. Donc le roman avait exemplifié et validé une norme langagière qui associe la représentation du désir féminin à la litote. Dès lors que la figure vient faire office de norme, c'est l'expression littérale, positive, normalement normale, le verbe « aimer », qui peut devenir saillante, voire figurale, à la fin de l'œuvre. Pour conclure, je dirais que la négation à l'œuvre dans la nouvelle historique et galante fait quelque chose au texte. La litote « ne pas haïr » qui s'impose dès lors qu'il s'agit de faire référence au désir féminin entre en système avec le verbe « aimer » pour construire une représentation particulière du monde. Une représentation qui pose la dissymétrie du masculin et du féminin, qui nie le fait que le verbe « aimer » puisse s'employer également et indifféremment pour dire le désir des hommes et le désir des femmes. Ça n'est pas la même chose, ça ne porte pas le même nom. Mais les textes, à leur tour, font quelque chose à la négation. À mon avis, ici, ils interrogent et déplacent les rapports qui existent entre négation et affirmation. En faisant de la litote un équivalent sémantique et fonctionnel du verbe « aimer », ils poussent la négation dans ses retranchements descriptifs. Et cette normalisation autorise la mise en relief, du coup, de l'énoncé positif, qui est susceptible d'apparaître, non pas comme un donné, mais comme l'objet d'une conquête. Nicolas posait en introduction la question d'une espèce de temporalité du rapport entre négation et affirmation. Est-ce que l'affirmation précède toujours la négation? Est-ce qu'on ne peut pas penser que certaines affirmations sont la suite, l'après, le dépassement de négation préalable? Il me semble que c'est vraiment ce qui se passe dans une œuvre comme La Princesse de Clèves, qui a installé la litote comme un avant, un préalable dans l'expression de l'amour, si bien que à la fin du roman, l'emploi de l'énoncé normalement non figural, normalement non figuré aimé, peut apparaître comme figural, lourd du poids des négations qui l'ont précédé et dont les personnages ont dû apprendre à se délester. Voilà. Je vous remercie.